RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. Alors que la pollution commence à diminuer, le gouvernement veut étendre aux véhicules utilitaires le bonus pour l'achat de véhicules électriques. Après 10 jours, l'épisode de pollution que connaît Paris et sa banlieue, mais aussi Lyon, Grenoble ou encore Rouen, la pollution devrait commencer à se dissiper grâce au vent qui va balayer une partie de la concentration des particules fines. À Paris comme à Lyon, les préfectures ont décidé de lever la mesure de circulation alternée. De son côté, Grenoble va pour la première fois tester la circulation en fonction des certificats de qualité de l'air des véhicules. Un système de certificat de qualité de l'air obligatoire. Ségolène Royal a présenté ce samedi plusieurs mesures lors d'un conseil des ministres exceptionnel consacré en grande partie à la prolongation de l'état d'urgence. La ministre de l'écologie veut notamment rendre obligatoire le système des certificats dans les zones où les pics de pollution sont réguliers. Cette vignette sera obligatoire à Paris à partir du 16 janvier. Jeudi matin, Antoine Comte, défenseur du club de Reims dans le Marne, était un footballeur prometteur. Ce vendredi, il encourt 5 ans de détention. Le franco-guinéen de 22 ans a été mis en examen pour violence volontaire et port d'armes prohibées après avoir violemment agressé Liam, un lycéen de 19 ans, à coups de batte de baseball. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans la soirée et a interdiction de se rendre dans le Marne. Deux femmes, âgées de 56 et 64 ans, qui traversaient une départementale dans la Manche, ont été tuées ce vendredi soir. Après avoir été renversées par une voiture qui a pris la fuite, l'accident s'est produit sur la départementale 902. Peu après 19h, les deux victimes traversaient la route pour se rendre au restaurant. Selon les premiers éléments de l'enquête, elles ont été tuées sur le coup. Le conducteur a pris la fuite, il est activement recherché. Deux témoins choqués ont été pris en charge par les secours. Le choc a été très violent et les corps de victimes ont été projetés sur le pare-brise d'une voiture qui suivait. Un point sur l'actualité à l'étranger. Alors que des discussions doivent avoir eu lieu ce samedi entre les États-Unis et la Russie au sujet d'Alep, les États-Unis ont annoncé le déploiement de 200 soldats supplémentaires en Syrie. De son côté, l'ONU vote des textes pour un cessez-le-feu. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a annoncé ce samedi le prochain déploiement de 200 soldats supplémentaires en Syrie pour aider des forces locales à reprendre la ville de Raqqa au groupe djihadiste. Cela inclut des forces spéciales, des formateurs et des conseillers. Ces forces vont se joindre à quelques 300 soldats des forces spéciales américaines déployées en Syrie pour conseiller la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes qui mène une offensive pour chasser l'aile de la ville septentrionale de Raqqa. Le Washington Post a publié ce samedi les résultats d'une évaluation secrète de la CIA qui révèle que la Russie aurait interféré dans l'élection présidentielle afin que le candidat Donald Trump accède à la Maison-Blanche, des informations contestées par le nouveau président américain. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7, dans quelques instants, on retrouve le sport. La météo, si vous allez faire du sport ou si vous voulez vous promener, sachez qu'il y aura ce matin et des nuages, ça sera très nuageux avec peut-être quelques pluies éparses. Température 6 à 7 degrés, dans l'après-midi quelques éclaircies, 9 à 10 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. On a retrouvé notre grand studio ce matin. Donc, ravi en tout cas de, à nouveau, d'être avec vous, de partager en tout cas une nouvelle fois une heure de passion et d'enthousiasme. Alors, naturellement, on reviendra une dernière fois sur ce qu'on vous a fait vivre la semaine dernière, à savoir le Téléthon. On aura toute une série d'interviews qu'on a ramenées en plus des directs qu'on vous a proposés la semaine dernière, le week-end dernier. Et puis, tradition aussi oblige, nous sommes à la mi-décembre. On est à quelques semaines du Red 28, donc on reçoit le président de l'association Turôme 91, Patrick Pilorget. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Red 28 est mort, vive le nouveau Red 28.
On peut pas dire le Red 28.
Si, dans sa conception, on va en parler. Donc voilà.
Ça tient un choc.
On peut le qualifier comme ça ?
Non.
Non ?
Non, le Red 28 n'est pas mort, il est bien vivant, bel et bien vivant.
D'accord, très bien. Alors, on en reparlera, hein, parce que naturellement, il s'est passé beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de changements dans cette édition 2017, donc on aura l'occasion de décortiquer tout cela. Je l'ai dit, c'était un week-end de Téléthon la semaine dernière, notamment sur notre radio, hein, où on était en direct sur beaucoup de la plupart des Téléthons de la région. Comment vous l'avez vécu, vous, aux Ulis ? Parce que vous êtes aussi investi dans cette grande cause.
Bien sûr, on l'a très très bien vécu, on a développé beaucoup de manifestations comme on le fait chaque année. Et je pense que cette année, on va dépasser notre record de dons acquis grâce à toutes ces manifestations. Et on va dépasser les 10 000 euros acquis par l'équipe des Ulysses qui a travaillé toute l'année sur ce Téléthon 2016.
Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait de proposé au programme de ce Téléthon de 2016 sur les Ulysses ?
Alors, aux Ulysses, il y avait le traditionnel repas du vendredi soir, qui est un repas animé avec des associations qui ont présenté des danses. C'est un repas qui est préparé par une association portugaise, ACPUO, qui est très active aux Ulysses. Et puis, on s'est couché tard parce qu'on a dansé assez tard. Il y a eu des démonstrations de danse. Et en même temps, à 19h le vendredi, on a lancé un grand challenge sportif sur le stade Jean-Marc Saligné, qui est un challenge organisé par le club olympique des Ulysses, club omnisport des Ulysses, qui était très présent cette année sur notre Téléthon. Et pendant 24 heures, des coureurs ont tourné sur un circuit qui avait été préparé sur ce stade. C'était une très très belle manifestation qui a attiré beaucoup de monde. Les jeunes du conseil municipal des Ulysses ont aussi participé en faisant une animation tout le samedi après-midi. Et nous avons bouclé cette course le samedi à 19h. Il y a eu des remises de dons puisque les concurrents qui s'étaient inscrits à cette course se sont inscrits en ligne et ont participé financièrement. Mais chaque personne, tous les habitants des Ulysses, jeunes et moins jeunes, pouvaient participer en payant 1 euro le tour. Donc des petites boules étaient achetées à 1 euro. Nous avions fait également une souscription quelques semaines avant pour que les personnes puissent acheter des kilomètres. Et si plus ça, plus ceci, plus cela, eh bien, on va avoir dépassé les 10 000 euros. Il y avait aussi d'autres manifestations, puisque la Galerie des Ulysses connaissait une animation particulière avec des musiciens qui sont venus jouer pour nous dans la Galerie des Ulysses, et un stand de vente. Et à Orsay, il y avait, à l'hôpital d'Orsay, un centre de dons avec une petite exposition d'objets. Sans oublier que nous avions fait la semaine d'avant une course qui s'appelle la Belli-Regardinoise, qui se court sur la commune de Saint-Jean-de-Beauregard. Et j'en profite pour saluer François Fonterra qui m'a accueilli sur cette course avec son conseil municipal, qui nous avions travaillé cette question depuis plusieurs années. Et là, beaucoup de nos amis sont venus courir sur un parcours de 4,2195 km, c'est-à-dire que ceux qui faisaient 10 tours ce matin-là avaient fait un marathon et plusieurs l'ont fait. Et puis, évidemment, dans les marathons locaux, puisqu'on est sur ce sujet, je vous signale qu'au marché de Bure-sur-Yvette, hier et aujourd'hui, nous présentons un stand du Téléthon avec une vente d'objets. Et puis, ce marché, évidemment, qui est très vivant, qui a fait hier soir une belle manifestation avec une soupe à l'oignon préparée pour l'équipe Touroum, pour le Téléthon et par les personnes du Centre culturel Marcel Pagnol. Et enfin, un feu d'artifice qui a bouclé la soirée. Mais en fait, ça devait boucler la soirée, mais les gens sont restés. C'était vraiment une très très belle manifestation à Bure-sur-Yvette, c'est pas loin d'ici.
Oui, parce que Patrick, il faut le dire, le Téléthon, on en a parlé il y a 15 jours avec donc les responsables et notamment le coordonnateur, ça peut commencer un peu avant et ça peut se finir après. Hein. Ça se, parce qu'on pouvait encore donner des dons jusqu'à la fin de ce week-end, donc on a encore l'autorisation d'étaler les manifestations de Téléthon sur quelques semaines.
Hein. Mon cher Philippe, le Téléthon, c'est toute l'année.
Ouais, c'est pas mal. Alors justement, tiens, dans notre région, eh ben, on a battu des records. On a eu 16 000 euros à Rambouillet, grâce notamment au Bédéton. Et puis on a eu aussi plus de 13 000 euros à Bullion. Et Bullion, justement, avait commencé son Téléthon un tout petit peu plus tôt que d'habitude, hein, puisque c'était le week-end du 12 novembre, à travers un spectacle, naturellement, parce que c'était difficile hein, d'avoir la salle au moment même de ce week-end du Téléthon des 2 et 3 décembre. Alors on est allé assister à ce spectacle et, bon, bah, comme c'est le Téléthon, eh ben, on a interviewé ceux qui étaient à ce spectacle. Donc on va écouter une chanteuse et un chanteur comédien dans cette émission de sport. On va commencer avec la pétillante Amalté, la chanteuse qui était naturellement ravie d'avoir participé à ce spectacle du 12 novembre dernier.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni...
Bon, alors c'était pas donc les interviews attendues. On nous fera signe du côté donc de la technique quand tout sera au point, lorsqu'on pourra donc retrouver la chanteuse à Maltais. En attendant, donc je vous rappelle qu'on a battu des records, que ce soit 13 000 euros sur Rambouillet et puis 13 000 euros sur donc Bullion. Alors Patrick, il y a des projets pour le Téléthon sur 2017. Quand on termine un Téléthon, déjà on pense à l'édition suivante.
Alors le Téléthon aux Ulysses, c'est une affaire qui se prépare toute l'année. Nous, évidemment, nous nous projetons. Énormément de personnes viennent aider. Il y a beaucoup d'associations. Les Ulysses est une ville, de ce point de vue, très très riche. Il y a beaucoup d'ethnies présentes. Il y a beaucoup de populations qui organisent des événements. Et c'est certainement ce Téléthon qui mobilise toutes les associations et ceux qui ont des choses à présenter dans de caractère artistique. Donc aux Ulysses, c'est une affaire qui dure toute l'année parce que le collectif qui organise ce Téléthon est dirigé par une association qui s'appelle l'Union des associations des Ulysses, qui est indispensable à la préparation de ce Téléthon, qui réunit dans ce collectif quelques personnes fidèles au Téléthon et aussi la bonne volonté de beaucoup d'associations. Nous sommes sur la préparation de ce Téléthon 2017 évidemment, mais ça va dépendre également des bonnes volontés de toutes les associations qui viennent nous aider.
D'accord. Alors le technicien est en train de se mettre donc au point. Donc on va le laisser travailler. On va parler du Red 28. Hein. On s'excuse. On va retrouver les interviews pour le Téléthon tout à l'heure. Patrick. Alors je disais le Red 28 est mort. Vive non. Le Red 28.
Alors, on peut pas dire ça.
Si voilà. Parce que dans son concept c'est fini quoi. Non. Cette course d'orientation par équipe c'était surtout la nuit. La nuit. Alors il y en aura plus. On l'a vécu avec vous en 2007 et 2013. Bon, c'est quand même la particularité de cette épreuve.
Alors, ce n'est pas mort. Le problème que nous avons connu cette année, c'est que la direction locale de l'ONF a interdit la circulation de nuit dans les forêts. C'est une mesure maintenant qui va s'étendre à de très nombreuses forêts. C'est une mesure générale que l'ONF a décidée et c'est une mesure que l'on peut comprendre. Par contre, elle était fortement injuste car elle s'est c'était pas une mesure écrite, donc cette interdiction a été prononcée au moment où on déclarait officiellement notre parcours aux autorités, aux préfectures, et c'est venu un petit peu tardivement pour qu'on puisse refaire comme d'habitude. Alors on ne peut pas dire le Red 28 est mort, certainement pas. D'abord, je suis là pour en témoigner. Ouais. Le Red 28 n'est pas mort, mais le Red 28 cette année, enfin en 2017, sera couru uniquement avec le semi-Red 28 et le Bure 28. Donc les parties les plus longues que l'on connaissait, l'Ultra Red 28 qui faisait plus de 100 km, le Red 28 qui en fait plus de 80, et l'équipe au trail qui se courait à 3 personnes, sont des manifestations qui ne pourront pas avoir lieu parce qu'on n'a pas pu refaire un parcours au dernier moment. C'est pas très productif et c'est pas surtout dans nos habitudes de bâcler la préparation du Red 28. Donc à cause de cette interdiction qui est venue tardivement, il y a quand même des répercussions. La première répercussion, c'est que c'est une restriction de circulation qui cause un préjudice très grave sur notre association vu sa réputation de course de nuit. Premièrement. Deuxièmement, ça nous cause un très très grave préjudice financier puisque ça nous prive d'une très grande partie des participations des coureurs qui s'intéressaient à ces courses longues. Ça, c'est très grave. Mais on va s'en tirer, bien sûr. Et puis, plus précisément, c'est une assez grave non-reconnaissance des mérites de notre association qui, depuis 24 ans, a toujours respecté les règlements, a été très attentive à la propreté des forêts, la propreté des lieux qui étaient traversés, a toujours été très respectueux des règles qui nous avaient été imposées et a toujours fait face à ses obligations. Donc ça, c'est quelque chose qui nous touche au cœur. Mais, je peux te dire, mon cher Philippe, que notre équipe est déjà en train de préparer la 25e édition du Red 28 qui aura lieu en janvier 2018. Et alors, le Red 28 n'est pas mort.
Oui, mais la nuit, c'est fini ou alors c'est que temporaire?
Alors, la nuit, pour cette année, c'est fini. Mais on a déjà les moyens de se remettre sur pied dans de bonnes conditions pour 2018. Alors, cette année, le Raid 28 se limitera au semi-Raid 28. Le départ aura lieu à 7h du matin dans une ville d'Île-de-France, dont je tairai le nom,
oui,
évidemment.
Parce que c'est la tradition, Patrick, hein, de ne rien dévoiler, même à notre micro, quelques semaines avant.
Voilà, même aux amis très chers. On ne dévoile pas la ville de départ. Sauf exception quand même, parce que l'année dernière, nous avons dit que nous passerions dans les studios de RVE, voilà, en direct, et on l'a fait, c'est un très très bon souvenir. Mais en dehors de cela, la ville de départ est tenue secrète, elle sera révélée le lundi qui précède la course à l'ensemble des personnes, aussi bien organisateurs que coureurs. Ce sera une belle course, il n'y a pas de doute, mais courte. Et je remercie ici très chaleureusement tous les coureurs et toutes les équipes qui ont bien voulu, malgré leur fidélité au Raid 28 qui fait 80 km, se reporter sur le semi-Raid 28, puisqu'on a accepté cette année, sur le semi-Raid 28, des équipes à 5 mixtes.
Oui.
Voilà, donc les fidèles de cette formule trouveront leur bonheur dans cette course, plus courte évidemment. Et on arrivera, comme d'habitude, avant 16h30, sur le campus de l'Université Paris-Sud, à Bure.
Alors, ça vous donne raison quand même d'avoir, il y a quelques années, créé des épreuves parallèles, hein, comme le Semi-Raid ou le Bure 28.
Bien entendu, hein, bien entendu.
On a pu se replier avec cette mesure comme ça sur ces épreuves-là.
Beaucoup d'organisateurs ont fait ça, c'est-à-dire on fait des courses, 100 km, 50 km, 40 km, et nous on tient à l'ensemble de cette palette de courses à pied, puisque nos fidèles qui vieillissent se reportent sur des courses plus courtes, et on constate avec beaucoup de plaisir qu'il y a énormément de jeunes athlètes, hommes et femmes, qui participent maintenant à nos courses, et ça c'est un vrai plaisir, et c'est eux qui gagnent d'ailleurs.
Alors Patrick, les inscriptions sont closes ou alors on peut encore le faire, et si oui, comment?
Alors, on peut toujours s'inscrire sur le site raid28.com, il y a une inscription en ligne. On peut s'inscrire donc sur cette inscription en ligne qui est My Outdoor Box, qui est un site d'inscription préparé par la société Red Light. On peut s'inscrire également de façon manuelle, parce que sur le site on propose notre bulletin d'inscription que l'on peut remplir et ensuite l'envoyer et envoyer le paiement par chèque. Nous sommes en train de mettre au point là, et ça va démarrer demain, une participation avec une communauté de coureurs qui s'appelle Running Heroes. Grâce à Running Heroes, vous pourrez, en déclarant sur votre application l'application de course à pied, évidemment, avec votre smartphone ou votre GPS, vous déclarez vos kilomètres à Running Heroes, vous pouvez acquérir des points, et avec un certain nombre de points, vous aurez une solide réduction sur l'inscription au prochain semi-Raid 28 et Bure 28. Ça, c'est pour faire connaître le Bure 28, c'est nouveau. Je pense qu'il faut aussi travailler comme on le fait avec les radios. On est présent aujourd'hui, il faut travailler avec la presse écrite, la presse sportive, mais il faut aussi travailler avec les nouveaux moyens mis en œuvre par les médias. Running Heroes est une start-up française qui dynamite l'audience des organisations de courses, et on y participera à partir de demain.
Alors, ça va être une course complètement différente quand même. Ça va être une course de jour, donc fatalement, on retombe dans un schéma et dans un style de course un peu plus classique.
Alors,
les coureurs en ont conscience de ça?
Oui, mais les coureurs ont conscience des difficultés que l'on connaît, et on a vraiment des personnes qui sont fidèles à nos courses. Nous avons, je fais un aparté aussi parce que c'est très important, nous avons rencontré récemment des organisateurs de courses, on a partagé toutes ces choses-là. Il apparaît que beaucoup des coureurs que tu connais d'ailleurs, cher Philippe, qui organisent des courses dans la région, commencent à être un petit peu découragés sous ces règlements pesants auxquels on doit faire face. Il est certain que ceux qui déclarent leurs courses et leurs événements sont tout de suite les cibles des interdictions, alors qu'on constate que beaucoup de personnes déclarent mal ou se comportent pas bien avec la nature. Je dénoncerai pas mes petits camarades, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas des organisateurs de course à pied, mais des gens qui passent dans la forêt, qui ne sont pas respectueux de cette forêt et qui ne sont pas pris la main dans le sac. Et ça, je n'y peux rien. Moi, je respecte précisément ce qui nous est imposé par les autorités, mais il faut que les autorités, si elles nous écoutent, les autorités et pas que l'ONF, fassent aussi leur police sur le respect des forêts.
Donc, Patrick, on peut le certifier, le Raid 28 risque de retrouver sa conception du départ pour le 25e, c'est pas perdu.
C'est absolument perdu, pas perdu. Le 25e sera une super fête. Ce sera également une super course, des super courses. Et je vous cache pas que mes amis, moi j'ai l'air décidé comme ça, mais mes amis sont quelquefois encore plus fans que moi de ce beau Red 28 que l'on prépare pour sa 25e. Déjà, on va courir le 24e, mais on prépare le 25e qui reviendra dans ses classiques courses de nuit.
Très bien, donc le Bure 28, et puis il y a une date limite pour l'organisation et le semi-raid.
Quelques jours avant, on peut s'inscrire encore quelques jours avant, on a donc tout le mois encore pour s'inscrire au semi-raid 28, à 5 ou à 3, et au Bure 28, à 3.
On viendra très loin quand même, Patrick.
Oui.
On viendra de très loin, de toute l'Europe. Comme ça a été le cas dans le passé.
On a des Belges, il y a un Anglais, on peut pas dire que le Red 28 soit une course internationale parce que c'est une course par équipe. Alors nous gardons volontairement ce format de course par équipe et course en orientation parce que c'est une originalité que beaucoup d'organisateurs ne vont pas fréquenter. Changer de parcours tous les ans, ça demande un énorme travail. C'est aussi la circulation sanguine de notre association Équipe Touroum. Et mes amis sont avec moi des fanas de découverte de terrain. La course d'orientation, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Et faire un trail en orientation comme le Red 28, c'est passionnant pour nous qui sommes les organisateurs. Et tant que j'ai une bonne bande de copains décidés à organiser ça, ça va continuer.
Très bien, on va écouter la pub, la musique. On est en train de s'activer parce que on n'a pas le droit de priver les auditeurs de nos interviews. Donc on est en train de s'activer pour pouvoir donc vous diffuser les interviews sur le Téléthon. On s'en excuse encore. Hein. Et en attendant, donc on écoute la pub et la musique et on reparle du Red 28. Et puis ensuite, c'est premier juré du Téléthon.
Artisan, chef d'entreprise, dirigeant de PME, Amplitude Service, récemment installé dans la vallée de Chevreuse, réalise tous vos travaux de secrétariat. Rédaction de documents, devis, factures, relance client, recouvrement. Vous souhaitez faire le point sur vos frais de structure, étudier l'opportunité de réduire vos coûts ou encore optimiser vos outils d'administration. Amplitude Service dispose des compétences nécessaires pour organiser votre gestion d'entreprise avec la possibilité d'intervention directement dans vos locaux. Spécialiste depuis plus de 15 ans dans la gestion des services administratifs et des moyens communs du second œuvre, Amplitude Service a créé des offres de services adaptées à vos besoins. Amplitude Service s'occupe aussi de vos événements d'entreprise. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 44 05 90 ou sur www.amplitude-service.fr et bénéficiez de la remise promotionnelle dans le cadre de l'ouverture de nos locaux de rue de Paris à Chevreuse. Pour vos travaux de secrétariat et d'organisation d'entreprise dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Eure-et-Loir, une seule solution, Amplitude Service.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'être. Sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive.
quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant.
Région avec RVE.
Alors je voulais simplement présenter toutes mes excuses donc aux auditeurs qui vont être privés aujourd'hui donc des interviews sur le Téléthon. C'est promis juré, il y aura la semaine prochaine la rétro, 11 après les pauses musicales, c'est pas bien grave, mais on vous diffusera en tout cas ces 9 interviews. C'est la moindre des choses. Ces auditeurs qui se sont beaucoup investis pour le Téléthon méritent d'avoir donc ces interviews à l'antenne. On sera un tout petit peu en décalage, ça sera la rétro, on essaiera de tout faire, mais c'est promis juré, on vous les passera. Voilà. Allez, on revient sur la Red 28, Patrick. Donc le Red 28, vous êtes copié un peu partout à travers ce genre.
On est copié, oui, peut-être un peu copié, mais comme c'est une course difficile à organiser, on est peu copié. On est content aussi d'être en relation avec des organisateurs de courses. Il y a d'autres trails en orientation. Il y avait le Raid Normand. Oui. Le Raid Normand hivernal qui s'est arrêté malheureusement parce que l'organisateur a connu des difficultés personnelles, donc il a cessé cette course qui était une très très belle course et qu'il avait démarré avec nous, avec notre collaboration, et on avait échangé énormément de renseignements pour pouvoir faire cette course. Donc on se ressemblait. Il y a dans la région parisienne des courses qui nous ressemblent en orientation. Il y a la Nocte Orientation qui s'est courue il y a quelques temps aussi. Mmh. Qui est une course un peu qui nous ressemble par équipe et en individuel et en orientation et en région parisienne. Je signale aussi que la Nocte Orientation a échappé, et on en est content pour eux, a échappé à cette interdiction de circuler dans les forêts de nuit, mais ce sera la dernière course en région parisienne qui sera autorisée à circuler de nuit. Mais elle a eu lieu, voilà, et on en est très content. Les gens sont satisfaits. Cette course qui nous ressemble un peu. Nous, on a quand même cette particularité de faire des courses très très longues, de faire une course d'orientation avec des options et aussi des spéciales originales chaque année. Mmh. Donc ça, c'est un travail qui est fait par le service recherche et développement de l'association Équipe Turum, qui trouve tous les ans des jeux de traçage et des jeux de courses d'orientation, aidés en cela par les différentes associations de courses d'orientation de la région parisienne. Alors on est quand même très peu copié. Dans les courses longues, on est copié sur les courses de nuit. Il s'est couru également il n'y a pas longtemps la Saint-Élion, qui n'est pas une course d'orientation, mais qui est une grande course très populaire, qui connaît un bel engouement avec plusieurs milliers de concurrents. Je disais tout à l'heure que l'on gardait cette formule de course difficile en orientation et par équipe parce que ça nous met à l'abri d'un trop grand nombre de concurrents. Le Raid 28 ne pourrait pas se courir avec 3000 ou 4000 coureurs. On est passé en quelques années de 200, 250 à 400, 450. C'est un choc dans l'organisation, mais c'est aussi un choc pour la nature parce que dans les courses d'orientation de nuit, les gens vont un petit peu fouiller partout, et c'est une des raisons pour lesquelles les techniciens de l'ONF n'aiment pas trop les courses d'orientation.
Mais il paraît que par rapport au trail, vous êtes avec la Croix-Rouge, vous êtes en rouge. les cours d'orientation par rapport au trail qui eux ont un peu plus de manchétude, bénéficient d'un peu plus de manchétude.
Bah, les trails en général sont des trails de jour, mm-hmm. hein, parce que tous les coureurs n'ont pas envie d'affronter la circulation de nuit dans les forêts, mm-hmm. mais les trails autorisés sont des trails qui passent dans les pistes larges des forêts, qui sont autorisées.
Mm-hmm. Très bien. Alors Patrick, c'est pas votre seule organisation sur Red 28. Alors on va rappeler d'abord la date, ça sera le 21 et 22 janvier. On sera quand même avec vous en direct, hein, on fera un petit point en direct. Vous avez d'autres organisations, d'autres épreuves.
Alors le Red 28 sera le 22 janvier.
Oui.
L'équipe du Room participe à beaucoup d'épreuves. Mmh. Je voulais absolument parler aujourd'hui de cette station de trail de Bure-Vallée-Chevreuse que nous avons créée avec la municipalité de Bure-sur-Yvette et en particulier avec son maire Jean-François Vigier qui est un coureur à pied qui cherche à participer à énormément de manifestations sportives dans la région, de trail. Et nous avons créé cette station de trail en 2015, officiellement. Ça demandait pas mal de préparation. C'est un travail qui est fait en commun entre le service des sports de Bure-sur-Yvette, et je salue notre ami Omar Sissoko, qui travaille beaucoup avec nous sur ce sujet, et les membres de mon association qui ont tracé les parcours de cette station de trail. Je résume, la station de trail, c'est comme les stations de sport d'hiver, des pistes tracées pour la course à pied et pour la marche dans la vallée de Chevreuse. Nous avons 7 pistes, des vertes, faciles et courtes, des bleues, plus difficiles avec un certain dénivelé, et des rouges, beaucoup plus longs, qui vont jusqu'à une trentaine, une quarantaine de kilomètres en région parisienne. Le projet n'est pas encore abouti, puisque dans ce grand projet de station de trail, nous voulons faire des manifestations autour et puis faire des grandes tentacules avec d'autres villes. Nous avons en préparation une sous-station de trail, puisqu'on a un périmètre qui est délégué à la station de trail de Bure-Vallée-Chevreuse, vers Dourdan et vers d'autres villes, peut-être Étampes, qui sont des villes avec lesquelles on collaborait pour faire des grands parcours de stations de trail avec des dénivelés connus, des balisages, etc. C'est un gros travail, mais c'est un travail extrêmement passionnant pour lesquels on trouve beaucoup d'amateurs. Et la station de trail de Bure-Vallée-Chevreuse est une des stations de trail. Il y en a une quinzaine en France, quelques-unes qui se créent en Belgique, en Espagne aussi. Donc c'est une franchise nationale et maintenant internationale qui a été créée par Benoît Laval, qui est PDG de Red Light, que l'on connaît bien aussi. Et les stations de trail, à l'image des stations de sport d'hiver, permettent aux gens de télécharger des parcours. Et la station de trail de Bure-Vallée-Chevreuse connaît le plus grand nombre de téléchargements de toutes les stations de trail de France. Alors là, on en est très fiers et ça montre que c'était un vrai besoin en région parisienne pour proposer aux amateurs de trail, de course à pied, de marche nordique et de marche tout simplement, des beaux parcours balisés dans notre belle région, puisqu'on a beaucoup de ressources, évidemment, dans la vallée de Chevreuse.
Oui, alors ça répond à un certain besoin et puis ça peut aussi susciter de futures vocations.
Alors oui, ça permet, ça donne aux gens envie d'être bénévole dans la création de parcours. Ça donne aussi envie aux gens d'être coureurs à pied vigilants, appelons-les comme ça. On n'a pas pu créer encore une brigade verte, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont à la fois des coureurs à pied, des coureurs de trail, qui sillonnent tous nos chemins, mais qui sont également vigilants au respect de la nature. Et ça, je pense que les gens de l'ONF qui nous aident, qui nous ont aidés à organiser ces parcours, sont conscients du fait que les coureurs à pied sont des gens qui respectent la nature, qui sont souvent des amoureux de la nature, et qui appellent à notre attention les différentes contrevenants et les différentes dégradations qui sont apportées à la forêt. Autour de la station trail de Bure-sur-Yvette, vallée de Chevreuse, nous créons des événements. On a créé un événement qui a lieu, qui va avoir lieu le 1er juillet prochain, qui s'appelle Bure court au clair de lune.
Ouais,
voilà,
nuit,
c'est un trail, c'est un trail de nuit, enfin partiellement de nuit.
Oui, oui.
Au mois de juin et ce qui se fait sur des pistes de la station de trail évidemment. Et nous allons courir la semaine prochaine la deuxième édition du trail du Père Noël qu'on appelle sur la piste du Père Noël qui a eu lieu l'année dernière le 19 décembre qui va avoir lieu cette année le 17 décembre, c'est la semaine prochaine, ce sera samedi prochain. Alors, je le cite, mais ne cherchez pas à vous inscrire puisque c'est plein depuis un mois. On est passé de 300 à 400 concurrents. On a fait le plein tout de suite. On est extrêmement heureux du succès de cette course. Ça aura lieu au départ du parc de la Grande Maison. Je serai là, le Père Noël aussi, et on accueillera
donc,
tous les coureurs.
Ça sera vous, Père Noël, alors.
Non, je ne serai pas le Père Noël. Je serai, j'ai le grand honneur d'être l'animateur de cet événement. Je serai présent au départ et je serai présent à l'arrivée. Le Père Noël sera présent sur le parcours, évidemment. Mmh. Et ce sont les bénévoles de l'équipe Touroom et puis d'autres bénévoles de la ville de Bure qui seront présents pour jouer les signaleurs tout le long du parcours. On est très fiers d'avoir créé cette course avec la ville de Bure-sur-Yvette, puisque cette collaboration entre notre mairie, le service des sports, les bénévoles de l'équipe Touroom et d'autres associations font que c'est un team qui réussit, et on est décidé à ne pas en rester là. On va continuer de développer des animations autour de la station de trail de Bure-Vallée de Chevreuse.
Mais c'est bien, Patrick. Comment vous expliquez justement ce phénomène pour le trail? C'est un phénomène qui est récent depuis maintenant, 7-8 ans.
Alors, le phénomène du trail, pour les vieux de la vieille dans notre genre, enfin dans le mien en tout cas, qui courait au XXe siècle.
Vous l'avez un peu initié à travers le Race 28 et votre course d'orientation déjà.
Voilà, mais c'est ce qu'on appelait le cross. Il y a toujours eu des gens, coureurs à pied, qui aimaient bien courir dans la boue, dans les champs, dans les chemins, etc. C'était du cross, ça existe encore.
Oui. Voilà. C'est un peu passé de mode, mais ça existe encore,
Alors le trail, c'est un concept qui est venu petit à petit et qui a entraîné les gens dans les chemins. Alors on le faisait depuis longtemps, puisque nous, on en est à la 24e édition de notre Raid 28. Donc il y avait très peu de courses qui s'organisaient, surtout de nuit, dans les chemins, et ça a donné envie aux gens de continuer, parce que c'est quand même plus facile que de courir sur piste. Mais il y a également une autre chose, c'est que beaucoup de grandes enseignes se sont intéressées au commerce qu'ils pouvaient faire sur le monde du trail, et grâce à ces grandes marques, il y a un développement considérable du matériel, de l'équipement, et évidemment des courses à pied, des trails et des trails en orientation.
Oui, c'est vrai que ça a boosté au niveau des équipements. Hein. C'était pareil pour le triathlon il y a quelques années vis-à-vis du sport cycliste. Là, c'est pareil. On voit des sites se monter partout. On voit des sociétés spécialisées se monter partout, quoi.
Nous étions sur l'ultra trail du Mont Blanc à Chamonix. Nous étions sur la semaine des courses des Templiers à Millau. Quand on voit les départs de ces courses, l'équipement des coureurs, et quand je regarde les photos cette année, ces années 2015-16, avec l'équipement des coureurs au départ des courses de trail, et puis les photos d'il y a 25 ans des équipements que l'on avait pour courir, aujourd'hui, les coureurs qui sont au départ des trails sont quasiment des Formule 1 de la course à pied.
Non, c'est sûr. Il y a une préparation particulière quand même. C'est-à-dire qu'il faut courir.
C'est à tous les niveaux.
Faut vivre avec, quoi.
Voilà. Il faut savoir que comme tous les sports, la course à pied, le trail demande un entraînement régulier. L'entraînement à la course à pied est un entraînement doux par rapport à l'entraînement qu'on peut avoir besoin de connaître à vélo ou dans d'autres sports. C'est quand même plus difficile. La course à pied, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et c'est quelque chose qui connaît un engouement, parce que on peut marcher, on peut courir, on peut faire de la marche nordique. À Bure-sur-Yvette, on a créé l'année dernière un club de marche nordique qui connaît un succès formidable. Et évidemment, ce club de marche nordique qui fait partie de l'Union sportive de Bure-sur-Yvette est dirigé par, devinez, un membre éminent de l'équipe Touroom qui s'appelle Christian Maire, qui est vraiment quelqu'un qui travaille énormément sur notre préparation de course et notre préparation de chemin. Et ça appelle tout le monde à venir sur le terrain. C'est vraiment quelque chose de très populaire et très intéressant. À Bure-sur-Yvette, on a recréé les marches de nuit qui existaient. Marches de nuit. Alors là, ça ne nécessite pas de déclaration, parce que on part à une petite dizaine de concurrents marcheurs. C'est pas une compétition. On s'arrête tous les 5 km pour boire un café à l'arrière d'un camion logistique. Et ça permet à tout le monde de s'intéresser à la progression de nuit avec son sac à dos et puis ses petites réserves.
Donc Patrick, peut-être un jour faire un trail carrément pour vous de nuit sans passer par Raid 28, c'est possible? C'est aussi dans les idées?
Alors la préparation du Raid 28 prend l'année. C'est quand même beaucoup de travail. Certains d'entre nous ne sont pas tous à la retraite, évidemment. Donc la préparation du Raid 28 demande beaucoup de soins, et je suis avec mes amis très exigeant sur l'excellence du résultat, et on est très attaché à ce que les balises soient parfaitement définies, soient parfaitement bien placées, et que le parcours soit attrayant, qu'il soit court ou long. Donc le Raid 28, c'est notre attention particulière à l'année.
Donc c'est nous pas possible de faire autre chose, quoi.
C'est pas possible de faire un autre trail de nuit hors course d'orientation.
On pourrait, mais ouais. Il faut aussi que, enfin bon, chaque bénévole a des respirations. Moi, mm-hmm. je ne fais pas que cela. Mm-hmm. Je suis participant déjà à beaucoup d'événements sportifs amis, pour lesquels je suis soit animateur,
ouais,
soit.
Comme on aura du coup un peu de temps, on va en parler.
Oui,
hein,
d'accord. Mm-hmm.
Ouais, ouais. Donc le trail, on l'a dit, c'est une nouvelle spécificité dans la course à pied depuis 7-8 ans. Ça demande un entraînement très dense. Pourtant, quand on court beaucoup, on peut s'user aussi, Patrick. On finit parfois, si on court beaucoup, certains oui, ont des interdictions pour les genoux, pour les chevilles, ils peuvent plus courir.
Ah, les fins de carrière, des coureurs à pied sont difficiles. Oui, mais tous les sports connaissent.
C'est peut-être plus facile de faire du vélo jusqu'à 70, 80 ans que de courir quand on a fait beaucoup de compétitions de course à pied.
Je connais bien le vélo parce que mon truc c'est le vélo.
Ouais.
Et faut savoir que le vélo n'est pas sans danger.
Oui.
Évidemment, c'est moins dur pour le corps parce qu'on peut faire du vélo très longtemps. Mm-hmm. Mais ceux qui aiment le vélo, qui aiment bien pousser dans les côtes et faire des petits combats avec les gens de rencontre sur les routes, savent que c'est dur aussi. À le vélo aussi, ce qui est difficile, c'est les chutes possibles. Mmh. À VTT, on est souvent par terre, il faut le savoir. Donc c'est aussi un sport qui connaît des difficultés. Et à vélo, on n'est pas exempt de blessures. Alors, coureur à pied, il connaît les blessures classiques. Les fins de carrière de beaucoup de coureurs à pied sont assez douloureuses, j'en sais quelque chose. Donc, il faut faire de la prévention, il faut s'économiser, il faut s'entraîner régulièrement. Et je pense que le trail va attirer les gens vers une pratique beaucoup plus douce. Même si les chemins sont difficiles, la boue est corrosive, que les trous font mal aux chevilles, etc. Ça appelle les personnes à progresser dans la forêt beaucoup plus lentement que de faire des courses sur route ou sur stade. Mmh. Alors c'est bien aussi parce que les jeunes aiment bien se défoncer en faisant des courses sur route très rapides, des marathons. On va connaître le 8 janvier un marathon dans la région.
Oui,
qui connaît
il est venu en parler
beau...
le 20 novembre donc bien dernier.
Sûr.
Et bon bah voilà,
j'y serai
grand marathon.
Aussi.
Oui, non mais grand marathon, premier marathon de France, le marathon voilà. des Yvelines hein, avec Patrick Bonneau.
Voilà. Donc les gens qui veulent connaître une défonce en course à pied vont faire ça. Il n'est pas interdit de faire aussi du trail, mais le trail est une pratique qui va être beaucoup plus douce, qui attirait beaucoup plus de gens. On a l'impression également d'être beaucoup plus en contact avec la nature. Il y a une espèce de communion forte, et c'est un petit peu ça qui nous a beaucoup déçus dans l'interdiction de l'ONF, c'est que on va empêcher beaucoup de nos amis de connaître cet espace nocturne de liberté qu'on offrait chaque année.
Mmh. Est-ce qu'un jour, le Raid 28 multisport, c'est peut-être envisageable? Tiens, pourquoi pas pour les 25 ans?
Alors,
vous parliez de VTT, pourquoi pas un peu de course à pied, un peu de VTT
Le Raid 28 multisport, on n'a pas réussi à s'engager dans cette voie. On a voulu, en 2001, on avait fait une épreuve canoë.
Oui, voilà. Oui.
Bon, c'est compliqué pour nous parce que tous mes amis sont plutôt des coureurs à pied.
Oui, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est que
il faut savoir
on pratique
aussi que...
des sports qu'on ne fait pas habituellement.
Oui, aussi, Philippe. Ouais. Mais on ne peut pas passer comme ça d'un trail à une course multisport. Le multisport, c'est vraiment une spécialité. Il y a des gens qui font ça, qui le font très bien. Les obligations de sécurité en matière d'organisation multisport sont beaucoup plus compliquées que pour un trail. C'est énormément plus compliqué. Un trail, c'est aussi, du point de vue de l'administration, plus facile à organiser. Parce que les courses sur route, on n'en parle peut-être pas tant que ça, mais les courses sur route sont pas faciles à organiser. C'est comme les courses cyclistes sur route. Il y a des obligations très importantes. Il faut tenir compte de la sécurité, il faut tenir compte de la circulation et de la voie publique. Donc c'est assez compliqué d'organiser des courses sur route. Mais ça existe. Et nous avons besoin pour le Raid 28 de cette respiration de course à pied. En ce qui concerne le multisport, il y a quand même beaucoup d'organisateurs de courses multisport et ces courses sont fort bien faites. Pour s'aligner aujourd'hui, faudrait faire un énorme effort auquel je pense que mon organisation n'est pas prête. J'ai pas spécialement envie de le faire parce que on ne veut pas dégrader la qualité du travail que l'on fait pour organiser le Raid 28.
Mmh.
Alors moi, en multisport, on pourrait faire des choses, mais les obligations en matière de sécurité sont extrêmement importantes si on fait du vélo, si on fait du canoë, si on fait de l'escalade. On met à ce moment-là les coureurs, on peut les mettre en danger, et ça nécessite d'avoir des spécialistes, et il faut une organisation extrêmement rigoureuse dans ces sports-là. Et mais on ne veut pas s'y frotter pour l'instant. C'est même pas un avenir pour moi. Quand je regarde, si j'avais envie d'en faire, j'irais chez les autres.
D'accord. Vous vouliez quand même donner un petit coup de chapeau à votre équipe de bénévoles, vos fidèles qui sont avec vous, Patrick, parce que comme vous l'avez dit, le Red 28, ça vous prend toute l'année. Hein. Vous vivez qu'à travers ça toute l'année. Donc un grand coup de chapeau à toute cette équipe qui est à vos côtés et qu'on connaît pour beaucoup et qui est très sympathique.
Ah oui, alors c'est une équipe à laquelle je tiens parce que...
Et des fidèles.
Les fidèles. Ouais. Alors, le staff de l'équipe du Room est constitué d'une une quinzaine de personnes qui travaillent à l'année et on se réunit régulièrement pour préparer le Red 28. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est déjà quelques-uns d'entre nous la tête dans 2018, la 25e édition. Mais j'ai le plaisir d'avoir dans mon équipe des amis avec lesquels on faisait ensemble des marathons dans les années 80. Alors il y a beaucoup de jeunes qui courent notre course qui n'étaient même pas nés à cette époque-là voient que les organisateurs sont des gens qui ont dépassé 50-60 ans et plus et qui couraient ensemble, et moi je suis très très fier de ces amis, parce que de tout le monde, je suis fier de tous parce que tout le monde fait des efforts considérables pour assurer l'excellence du Red 28, mais il y a quand même l'équipe de base qui est constituée de 7 ou 8 anciens qui couraient avec nous au 20e siècle. Et ça, c'est quelque chose de très très précieux, parce qu'ils ont, par leur pratique, acquis les connaissances des besoins des coureurs. Beaucoup de nos jeunes bénévoles sont aussi des coureurs à pied, plus jeunes bénévoles. Quand je dis jeunes, c'est dans la cinquantaine et en dessous. Et ils nous apportent énormément en continuant de courir et en nous apportant les conseils qui vont bien pour pouvoir organiser une course qui convient bien aux coureurs de trail.
Et vous êtes toujours d'accord, justement, c'est une question que j'ai souvent posée, quand vous commencez déjà à plancher sur l'édition suivante du Red 28, bon, je suppose que certains et tout le monde aimait certaines idées sur certains endroits à passer, qui tranche, qui arbitre?
Alors, on est très souvent d'accord. J'aime bien les décisions qui sont prises à une quasi-unanimité. On est très souvent d'accord, mais pas toujours.
Mais ça,
on ne peut pas avoir une équipe dynamique, décidée, fonceuse, sans que au cours des réunions, il y ait des partages d'avis, etc. Mais, en général, on finit par aboutir à une espèce de consensus qui mène à une certaine réussite. Je n'ai pas parlé d'une chose très importante qui concerne la station de trail, puisqu'on a connu il y a quelques temps, on parlait de course dure. Pardon, le Red 28 est une course dure. La station de trail se fait connaître auprès de beaucoup de personnes du monde entier, et nous avons organisé une projection la semaine dernière avec l'organisateur de la course la plus dure du monde, qui s'appelle la Barclay. Oui. Alors beaucoup de personnes ne connaissent pas, ceux qui sont dans le milieu sportif connaissent un peu, les coureurs de trail connaissent la Barclay. La Barclay est organisée par un gars qui est un ancien coureur à pied qui habite le Tennessee et qui a créé cette course il y a 30 ans. La course la plus dure du monde, c'est 5 tours de 40 km.
5 tours de 40
km. Et ça se passe dans une forêt un peu sauvage. Sur les 1200 concurrents qui ont participé à cette course depuis l'origine, seuls 15 ont fini. Et on a fait à Bure une projection dans le cadre de la visite de l'organisateur qui s'appelle Lazarus Lake. Laz, pour les intimes. C'est le genre bûcheron canadien avec une grosse barbe blanche. Il organise sa course, il est présent sur sa course comme nous le sommes sur la nôtre. Et cette année, il y a beaucoup de sur les combien 15, 20, 30, 40 concurrents qui courent chaque année, il y avait cette année 5 Français. Et notre ami Benoît Laval, le PDG de Red Light et coureur à pied, coureur de trail, y participait, n'a pas pu finir non plus, mais a fait une tournée de projection dans quatre grandes villes françaises. Et dans sa tournée parisienne, c'est Bures-sur-Yvette et sa station de trail qui ont été choisis pour accueillir Lazarus Lake. On a connu un beau succès. Il a fallu faire deux séances au Centre culturel Marcel Pagnol à Bures la semaine dernière. Et plus de 250 personnes ont assisté à cette projection. Et également aux séries de questions qui ont été posées à Laz et à Benoît Laval ce soir-là. C'est une belle reconnaissance.
Mondialement.
Oui, hein? Mondial. Enfin, soyons modestes aussi. Non, c'est quand même un carré de coureurs à pied très particulier. Mais ça montre que les gens, entre le petit coureur à pied qui se balade de temps en temps le dimanche avec des copains sur quelques kilomètres en vallée de Chevreuse pour prendre l'air, et puis des durs à cuire, des dureuses à cuire aussi, qui vont se tuer la peau à faire des courses hyper dures, eh bien, il y en a pour tout le monde, et c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'à Bures-sur-Yvette, on a réinitialisé ces marches de nuit qui s'intéressent aux marcheurs, aux randonneurs, mais également, on s'intéresse également aux courses très dures. Le Red 28 en fait un peu partie, et on a pu montrer la Barclay, et on a pu montrer que les gens pouvaient aller très loin dans les efforts sportifs.
Alors pour revenir sur le Red 28, vous vouliez dédier cette édition à un collègue qui vous a quitté cette année.
Oui. Il faut absolument en parler. Nous avons un bénévole depuis pas mal d'années qui était un ulicien, Gérard Dufour, qui fait partie également d'une association qui s'appelle Dune d'Espoir, qui est très proche de nous. C'est un bénévole qui était sur le Red 28 depuis toujours, depuis très longtemps. Et puis, c'était aussi un bénévole qui était sur les différentes manifestations de Dune d'Espoir. Dune d'Espoir, c'est une association de coureurs à pied qui dédie ses week-ends et ses voyages à transporter des enfants avec des joëlettes, donc ce sont des enfants victimes de handicap, et cette joëlette leur permet de participer aux courses à pied avec les bénévoles de Dune d'Espoir. Et Gérard a entrepris un grand raid de traversée des Pyrénées. Au mois de juillet, il a connu un incident. Pendant un bon mois, on l'a cherché. Enfin, pas nous physiquement, mais beaucoup de personnes se sont mis à sa recherche. Et en fait, il a connu une difficulté. Il a fait une chute très importante et on n'a pas pu le retrouver tout de suite. Gérard était quelqu'un de précieux pour nous parce que c'était quelqu'un d'enjoué, quelqu'un qui ne faisait pas de bruit, sauf en riant. Et il nous accompagnait dans tous nos événements, dans les reconnaissances du Red 28. Il faisait partie également de l'équipe d'ouverture du Red 28, puisque on a une équipe forte qui participe à l'ouverture de la course et qui vérifie les balises, qui vérifie les passages avant le Red 28. Donc il était de tous les instants avec nous. C'était aussi un ami proche. Il habitait à côté de chez moi. Je le croisais souvent dans ses entraînements le soir. Et quand il a disparu, ça nous a fait un véritable choc. C'est pas la première fois que le Red 28 perd un de ses fidèles amis. C'est la raison pour laquelle vous trouverez sur notre site la photo de Gérard, notre GG. Vous le trouverez également en logo sur les documents de la course. Et le cadeau de l'année, comme chaque année, c'est un tour de cou. Chaque année, les coureurs reçoivent un tour de cou. Et dans le logo du tour de cou, il y a un G. Donc nous transporterons GG avec nous toute l'année.
Eh ben c'est bien pour donc rendre hommage à cette nouvelle formule du Red 28. C'est bien, Patrick. Allez, la pub, la musique, et puis voyez, vous avez une heure d'antenne. Eh bien on a été très complet, et ensuite on finira cette émission donc sur la course d'orientation et le Red 28.
La Cime Verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe, à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial avec un espace enfant pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Maison Conforme, cabinet d'expertise en technique de construction, mais ses 25 ans d'expertise à votre service. Maison Conforme défend vos intérêts lors d'expertise construction, d'assistance à réception, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Maison Conforme, la solution aux soucis de construction. Pour plus d'informations, maisonconforme.fr ou 06 50 28 65 34.
Nouveau à Rambouillet, 12 rue Georges Clémenceau, Imagink, votre nouveau salon de tatouage et de piercing ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h. Imagink vous accueille et vous accompagne dans vos projets de tatouage et de piercing, de l'imagination à la réalisation. Imagink, 12 rue Georges Clémenceau à Rambouillet, téléphone 09 86 09 35 35 et sur Facebook Imagink 78.
Consacré uniquement ce matin au Raid 28, ben vous pourrez la retrouver donc en podcast. Et puis, promis juré, hein, on vous diffusera dans la première partie de nos interviews, même si ce sera du réchauffé. Mais enfin, je pense que les gens qui se sont beaucoup investis sur le Téléthon n'ont pas le droit d'être privés de ces interviews. Donc, on les diffusera la semaine prochaine. C'est promis juré durant la première demi-heure de notre émission. Et puis, on fera ensuite une grosse rétro comme prévu entre 10h30 et puis midi. Voilà. Et puis, ben, on on s'adaptera donc aux circonstances. Patrick, merci d'être venu. Donc on se le dise, hein, le Red 28 n'est pas mort. Vive le nouveau Red 28.
Le Red 28, que vous allez connaître le 22 janvier 2017 sera un Red 28 qui se limitera au semi-Red 28 et au Bure 28. Ce sera une belle course puisque nous avons conservé toutes les particularités de notre Red 28 dans le semi et dans le Bure 28. Les coureurs qui vont le faire, évidemment, ne connaîtront pas les longues distances et la nuit dans les forêts comme d'habitude. J'invite tous les fidèles de ce genre de course et tous les fidèles de l'équipe Touroom à s'inscrire sur red28.com pour participer à cet événement. Mais il faut savoir, et je le dis bien fort, que nous avons en tête la préparation du prochain grand Red 28 de 2018, qui sera la 25e édition. Et je dis également que nous comptons sur RVE pour être la station radio du Red 28 en 2018.
Bah voilà, comme on l'est depuis maintenant, depuis le début pratiquement. Merci Patrick, merci à Vitor, ça n'a pas été facile ce matin pour lui. Il va pouvoir prendre des bonnes vacances maintenant, hein, puis on le retrouvera pour Tribune Foot le 8 janvier. Et puis la semaine prochaine, promis juré, on vous diffusera le Téléthon en plus de la rétro sport. On va y arriver, on zappera la musique, c'est pas grave, mais place à l'actu. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous, et rendez-vous donc la semaine prochaine, 10h midi pour la grosse rétro et puis la fin du Téléthon. Merci à toutes et à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.